Bonjour! Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés du média suivant. Liberté. Au programme, nous avons trouvé l'amour dans un endroit sans espoir. Bonne écoute!
Nous avons trouvé l'amour dans un endroit sans espoir. Un texte de Gabriel Cholette, paru à l'automne 2022 dans le numéro 336 de la revue Liberté. La pop joue avec nos désirs et nos révoltes. Mais qu'est-ce donc que ce truc qui nous soulève? Réfléchissons en dansant sur du Rihanna. Je marche dans le noir sur un petit chemin déjà emprunté par des centaines de personnes. Au loin, j'entends un vrombissement qui résonne en moi, s'ajoutant à mon stress-excitation qui fait frémir le bout de mes doigts. Je m'en vais à un rave-off fierté qui se déroule près du quartier Hochelaga-Maisonneuve, près du stade, que je ne perdrai pas de vue cette nuit-là. Quand j'arrive sur les lieux, une foule immense m'attend, crie, jouit d'être enfin rassemblée après des mois de confinement. Rapidement, en allant rejoindre mes amis qui sont à l'avant, complètement entraînés par la musique, je croise une dizaine de personnes issues de plein de sphères de ma vie, pas seulement des homos, des clubs kids ou des rivers, mais aussi des amis d'école. Des garçons gênés, des anarchistes, des gens de HEC qui ont eu l'info je ne sais trop comment, des straights, des touristes torontois, des étudiants étudiantes en théorie critique, des gentils, des méchants probablement. Cette drôle de collectivité, je l'ai souvent décrite sans mentionner celles qui m'étaient les plus éloignées. J'ai souvent insisté sur celles qui, comme moi, étaient marginalisées par leur genre ou par leur orientation sexuelle. À vrai dire, dans cet espace un peu hors temps que j'aime profondément, j'aurais dû insister davantage sur l'amalgame de corps qui s'y trouvent, qui s'unissent en des temps difficiles, pas toujours ensemble, mais ensemble, oui, en groupe, en même temps. Et quand une des artistes DJ fait jouer un remix de « Bitch Better Have My Money » de Rihanna, nous chantons toutes à tue-tête les paroles de ce hit que je qualifierais d'incendiaire. La chanteuse rappe pour que son comptable lui remette l'argent qu'il lui a volé, et nous, collectivité queer en marge de la ville, reprenons le discours à notre compte, hurlons ces mots à la lune. Quelques minutes après la fin de la chanson, je regarde avec intensité les yeux de Lou. Et je lui dis qu'on vit un moment important, qu'il faut se documenter parce que personne ne le fera et qu'il y a quelque chose d'historique dans ce rassemblement aussi hétérogène où tout le monde exprime sa particularité sans gêne. Aujourd'hui encore, il m'arrive de repenser à ce moment, plus précisément à Rihanna, qui nous a unis d'une façon que je considère comme réellement queer, c'est-à-dire telle une collectivité où l'universalisme se formule à partir de la réalité des minorités. Je vois des mécanismes qui permettent cet idéal ou cette conception politique partout dans l'œuvre musicale de Rihanna, dans son discours explicite sur la sexualité, qui est variable, ouvert aux nuances, dans son effort pour renverser les scénarios sexuels destinés aux adolescentes noires depuis le colonialisme, et dans son attitude revendicatrice qui permet de penser la rétribution à travers toutes sortes d'argent symbolique. Et, en même temps, Rihanna est un produit capitaliste comme il en existe peu. Les sensibilités qu'elle convoque renforcent bien souvent l'idéologie du capital sans offrir d'avenue autre pour s'en émanciper. En examinant en détail sa proposition musicale, j'aimerais souligner combien son œuvre permet d'envisager les mécanismes intérieurs de notre système économique. Il ne s'agira donc pas de trancher si la musique de Rihanna est socialement bénéfique ou non. Elle l'est et ne l'est pas. Mais bien de l'appréhender comme un objet signifiant complexe dans lequel se croisent de nombreux enjeux propres au discours social d'aujourd'hui. S'il y a bien une chose que le phénomène Rihanna est apte à dévoiler, c'est le constant besoin du système capitaliste d'expliciter et d'intensifier les désirs, produisant des manques qui ont des conséquences directes sur notre conception de nous-mêmes. Seule une lecture irrévérencieuse de ces principes économiques parviendra à faire ployer le tout. Vous écoutez, nous avons trouvé l'amour dans un endroit sans espoir, un texte de Gabriel Cholette paru à l'automne 2022 dans le numéro 336 de la revue Liberté. Dire ce qui doit être dit. Né le 20 février 1988 à la Barbade, de parents comptables et marchands, Robin Rihanna Fenty est remarqué dès l'enfance par des producteurs américains qui reconnaissent en elle un talent musical manifeste. Enfant star, elle assure la première partie de Gwen Stefani à l'âge de 17 ans en 2005. Le premier album qu'elle co-compose et interprète la dépeint comme une bonne fille qui se plaît à danser sur des rythmes pop, dancehall et reggae enthousiastes. Pour rompre avec cette représentation enfantine, Rihanna revient à la charge en 2008 avec une image entièrement refaite, signant un album au titre révélateur « Good Girl Gone Bad », où se trouve son hit le plus connu, « Umbrella ». Dans cette chanson, interprétée en duo avec Jay-Z, elle chante son désir de rester amoureuse malgré le risque d'être contaminée par le succès commercial. Dans les années qui suivent la parution de ce hit emblématique, Rihanna explore le vocabulaire d'une sexualité affranchie, libérée des tabous, comme le feront par ailleurs plusieurs enfants célébrités qui souhaitent mettre à jour leur image publique. Je pense à Miley Cyrus, Justin Bieber, Britney Spears, etc. Les chansons de cette ère musicale sont par le fait même marquées par un langage de la sexualité qui ne lésine pas sur les mots. Son sixième album s'intitule « Talk That Talk », c'est-à-dire « Parle ce langage, parle de ta sexualité sans craindre les conséquences ». J'avais tout juste 18 ans quand cet album désigné comme « explicite » est sorti, et j'ai avalé tout rond le projet artistique de Rihanna. Dans les métros de Montréal, je me souviens d'avoir écouté cet album en boucle, chantant dans ma tête « Suck my cockiness, lick my persuasion, suce mon arrogance, lèche ma persuasion, ou encore « It's not even my birthday, but he wanna lick the icing off ». I know you want it in the worst way. Can't wait to blow my candles out. Ce n'est même pas mon anniversaire, mais il veut lécher le glaçage. Je sais que tu le veux de la pire des façons. J'ai hâte de souffler mes bougies. Je n'ai pas été le seul à être impressionné par sa capacité à faire allusion à une sexualité affranchie sur des rythmes endiablés et dansants. Si nous sommes maintenant habitués à ce genre de discours, il faut rappeler qu'à l'époque, la musique populaire parlait moins frontalement de sexe. Les mots à caractère sexuel étaient censurés à la radio et à la télévision, ce qui ne se produit plus sur les plateformes de musique en continu. Une ligne morale était franchie avec « Talk That Talk ». Et moi, les hormones dans le tapis, ça m'obsédait, ce cake, 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 sexuel. Ces mots, cockiness, pussy, Asian, à peine couverts, ce fuck me parfois prononcé, cette mise en scène frontale du faire l'amour, renforcée par le rythme musical qui rappelle le sexe, intonation d'orgasme comprise. Le tout n'avait plus, comme je le croyais, à se prononcer en cachette. L'expression de la sexualité était désormais exubérante. Elle passait par la répétition et par le chant impérieux. « Say what you want, say what you like, say you want me to do and I got you. » Dis ce que tu veux, dis ce que tu aimes, dis ce que tu veux que je fasse et je le ferai. Qui craint que les enfants, adolescents, jeunes adultes parlent de sexualité? Nous-mêmes, apparemment, quand nous vieillissons. Cette attitude morale semble s'intégrer quelque part après l'âge adulte et orienter la compréhension de notre récit personnel, si l'on se fie aux commentaires qui se trouvent sous les vidéos YouTube de Birthday Cake, Extended Version, featuring Chris Brown, et de Cockiness, deux des chansons les plus suggestives de Rihanna. Issa Fae, il y a 2 ans, modifié. « 10-year-old me had no business singing this. » Le moi de 10 ans n'avait pas d'affaire à chanter ça. 8100 mentions j'aime, 69 commentaires. Shay Energy, il y a 1 an. « Childhood me, a song about birthday cakes. Adult me now, oh that kind of cake. » Le moi enfant, une chanson à propos de gâteaux de fête. Le moi adulte, oh cette sorte de gâteau. 4000 mentions j'aime, 23 commentaires. JB Music, il y a 1 an. Why the fuck wasn't my ass whooped when I blasted this in my room at 10 years old? Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas botté les fesses quand j'écoutais cette chanson à tue-tête dans ma chambre à 10 ans? 1400 mentions j'aime, 9 commentaires. Examinons cette fiction singulière. Durant l'enfance, des fans auraient prononcé des mots plus ou moins codés, ne percevant pas leur signification cachée. Les internautes l'auraient compris une fois adultes, l'âge de la raison sexuelle, et auraient été étonnés d'avoir eu le droit d'écouter ces chansons. On voit bien s'effectuer la transmission des normes dans ce petit fragment numérique, du moi enfant au moi adulte, pour reprendre les mots de Shay Energy. Car ces témoignages formulés à la blague semblent bien calquer une grande grille de lecture morale propre à la société occidentale moderne, voulant que le contact entre les enfants et les discours sur la sexualité soit problématique. Problématique au point qu'on doive les en protéger. Le commentaire de JB Music transporte avec humour cette injonction à surveiller les enfants et à les punir au besoin en leur bottant les fesses. Nous considérons constamment les enfants et les adolescents-adolescentes comme des individus sans conscience, sans sexualité. L'infans étymologique, celui qui ne parle pas, celui qui ne dit pas ce qu'il doit être dit. « Who doesn't talk that talk » pour jouer avec le titre de Rihanna. Et en même temps, nous créons une culture qui les force à apprendre la sexualité et les interdits qui en découlent. Une culture qui leur impose une certaine façon de s'exprimer et de penser. En devenant adultes, ils devront comprendre les coûts de l'explicite. L'idée, par exemple, qu'on ne parle pas de sexualité en public, qu'on garde ce langage pour les moments d'intimité. Pour les plus conservateurs, conservatrices, les discours sur la sexualité seront idéalement réduits au strict minimum. On ne parlera pas de plaisir, on n'envisagera le sexe que comme moyen de reproduction de l'espèce. Vous écoutez « Nous avons trouvé l'amour dans un endroit sans espoir », un texte de Gabriel Cholette, paru à l'automne 2022 dans le numéro 336 de la revue « Liberté ». Les avertissements aux parents, ces étiquettes ajoutées sur les produits culturels pour protéger les enfants de la violence ou de la sexualité, ont pour effet d'indiquer très clairement quand un objet est du côté de l'explicite, c'est-à-dire quand il est amoral. C'est bien quand on est hétéro et qu'on a une famille. Ce l'est moins quand on est une personne qui doit constamment faire des coming out, à qui l'on demande d'être fier et d'avouer ses préférences sexuelles. Pour le dire autrement, le présupposé que les discours sur la sexualité doivent être tus en public met en danger l'expression des communautés à qui l'on demande précisément de faire l'étalage de leurs préférences. Rapidement, ces personnes sont accusées d'être trop intenses, de vouloir choquer, alors qu'elles ne font que ce qu'on leur impose, se dévoiler comme différentes, comme homosexuelles, par exemple. L'avertissement de contrôle parental n'est que la manifestation de ce présupposé social, cette idée qu'il y a un risque à trop dire. La frontière de l'explicite organise ainsi une certaine partie de la société actuelle. D'un côté, il y a celles qui doivent dire et que l'on accuse de trop dire, et de l'autre, celles qui peuvent se permettre de rester dans l'implicite et qui s'assurent que l'ordre social est respecté. Pour se convaincre que cette économie existe, on peut se remémorer l'existence du village à Montréal, à mon avis encore important, qui rend sensible cette division sociale sur le plan urbanistique. Si les personnes LGBTQ+, vivent majoritairement à l'extérieur de ce quartier, il reste que leur aire de jeu est symboliquement restreinte à cet endroit où se concentrent des entreprises de séduction, de plaisir et de sexualité. Ce quartier est bien entendu utile pour les minorités sexuelles en région, qui peuvent le voir au loin comme le phare signalant l'existence de modes de vie qui leur ressemblent, mais en milieu urbain. Il marque, selon moi, une ségrégation sociale qui existe encore. Le village est cet avertissement aux parents placardé sur tout un quartier. Ce qui est d'autant plus frappant quand on examine de près Rihanna, c'est qu'elle parvient à rejoindre la majorité de la population en jouant justement sur les frontières que tracent l'idéologie et la morale hétéronormative. On en trouve la parfaite expression dans SNM, une chanson de l'album Loud 2010, où les comportements sadomasochistes, choquants pour un public sage, se voient valorisés dans le discours d'une chanteuse qui prétend en être l'experte. « Cause I might be bad, but I'm perfectly good at it. » Parce que je suis peut-être mauvaise, mais je suis parfaitement bonne à ça. La formule joue, sur le sens positif, d'être mauvaise, comme dans l'expression « I'm a bad bitch », selon l'Urban Dictionary. « Bad » signifie « qui est sexé et qui l'extériorise avec confiance ». L'imaginaire du sadomasochisme qui est convoqué suggère que, dans notre société, le rapport à la sexualité se fait dans une danse complice entre le plaisir et la douleur, la critique de soi et la joie de goûter. Un système de frontières où l'hétéronormativité joue un grand rôle, qui se traduit par un doute constant sur ce qu'il est permis ou non de faire. Un calcul continuel du nombre de fois où l'on a franchi la ligne et l'hésitation entre la franchir à nouveau ou rester dans le territoire du permis. Mais le succès de Rihanna n'est-il pas le symptôme d'une société qui, fondamentalement, est en contradiction avec ses idéologies? Je perçois, dans ces milliards d'écoutes, une célébration des limites de notre sadomasochisme collectif, un plaisir partagé de transgresser ce système qui structure nos érotismes par l'interdiction. Je vois que quelque chose craque, que la danse ne fonctionne pas et qu'elle condamne la majorité et non pas les minorités, comme on le formule actuellement, au silence. Alors qu'au Québec, les cours d'éducation sexuelle ont longtemps été négligés, il me semble indispensable d'ouvrir le discours sur les sexualités afin de briser la hiérarchie morale qui s'en prend à tout acte qui ne mène pas à la procréation, en permettant de parler des désirs et des plaisirs sans les cristalliser, sans qu'ils fassent l'objet de coming out qui ont comme conséquence de sceller l'identité sexuelle. Pour enfin favoriser l'apprentissage de ces choses aussi complexes que sont le désir et la sexualité, sans les penser comme des séries de frontières à franchir dans le noir. Je marche dans le noir sur un petit chemin déjà emprunté par des centaines de personnes. Je vous rappelle que vous écoutez « Nous avons trouvé l'amour dans un endroit sans espoir », un texte de Gabriel Cholette, paru à l'automne 2022 dans le numéro 336 de la revue « Liberté ». Croquer les diamants. Au loin, j'entends un vrombissement qui résonne en moi. Ce vrombissement est celui des revendications sociales récentes qui laissent présager des avenirs meilleurs pour les personnes minorisées. Dans cette foulée, Rihanna se présente comme une actrice de premier plan pour qui veut bien l'entendre. La prise de parole qu'elle représente dans le paysage social de notre époque permet de penser que non seulement la sexualité peut se concevoir de façon multiple et changeante dans le temps, mais que cette ouverture peut aussi s'appliquer au rapport à l'argent. J'ai évoqué plus haut qu'au début de sa carrière, Rihanna a accompagné Gwen Stefani dans un spectacle japonais éclectique intitulé « Harajuku Lover's Tour », assurant sa première partie. Chaque soir, Stefani reprenait la fantaisie chantée « Rich Girls » qui va comme suit. « Si j'étais une fille riche, nana, tu vois, j'aurais tout l'argent du monde. Si j'étais une fille riche, aucun homme ne pourrait me tester, m'impressionner. Mon flux d'argent ne s'arrêterait jamais. » Or, survolant l'œuvre musicale de Rihanna, je suis surpris de voir que plusieurs chansons lui répondent. Alors que Stefani rêve d'un futur où elle serait riche, Rihanna présente une toute nouvelle attitude où le désir d'argent peut ou doit être explicité. Pour des chansons comme « Bitch Better Have My Money » et « Pour It Up », le texte poétique propose une place plus alléchante aux femmes, dénuée de toute forme de dépendance économique et symbolique envers les hommes, bien qu'on pourrait avancer qu'on reste dans le discours d'un idéal capitaliste. L'attitude revendicatrice de Rihanna, son « swagger » pour le dire autrement, donne néanmoins l'impression de mettre en cause des frontières sociales, celles-ci étant désormais économiques. Car, en parlant explicitement de son désir de posséder de l'argent, Rihanna se libère d'un vieux scénario sexiste négatif, toujours en vogue dans la première décennie des années 2000. À cette époque, on attaque les femmes en les traitant de « gold digger », croqueuses de diamants, soit la femme qui vole la fortune de son riche amant, stéréotype clairement formulé par Kanye West dans son succès du même nom en 2005. « Elle prend mon argent quand je suis dans le besoin. Ouais, c'est une amie insignifiante. Oh, c'est une croqueuse de diamants. » Dans Glamorous, 2007, le scénario est inversé. Fergie expose ses goûts glamour et rassure son amant en lui disant « J'ai assez d'argent à la banque pour nous deux. » Perspective rafraîchissante sur le lieu commun sexiste. Malgré tout, dans la section rappée de cette même chanson, Ludacris chante avec un groupe de garçons « Si tu n'as pas d'argent, ramène ton cul fauché chez toi. » Nous restons pris dans le même paradigme économique qui fait des femmes ou des personnes qui ne détiennent pas un grand capital une menace pour le patrimoine de leurs partenaires. Ce paradigme force certains discours des femmes ou des moins fortunés à rester au niveau de l'implicite, du besoin caché. Chaque humain a besoin d'une sécurité financière. Mais ces chansons d'amour rendent problématique ce besoin en dépeignant les femmes comme des croqueuses de diamants. On remarquera par ailleurs l'étonnante virilité des mots liés à l'argent, qui usent de l'imaginaire de la bourse masculine. Ceci sous-entend déjà un certain sexage des relations économiques. En effectuant des recherches sur l'histoire de la Gold Digger, je tombe sur un article de Dion P. Stevens et Lely D. Phillips qui suit la trajectoire de ce récit sexuel et de trois autres ayant touché les adolescentes afro-américaines depuis l'esclavage jusqu'aux années 2000, nommément la freak, la folle, la diva et la dyke, la lesbienne ou la butch. Tout dans la musique de Rihanna pointe vers des stratégies de survie qui passent par l'appropriation de ces scénarios sexuels afin de les déconstruire.
Pour entendre la suite de « Nous avons trouvé l'amour dans un endroit sans espoir », veuillez rester à l'écoute puisque « On lit pour vous » continue après la pause. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visezvoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartmann à la présentation et au montage.